Le Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigoni.
Bonjour et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. De A à Z, de Shalom Hache à Stefan Zweig, de la poésie de Joseph Brodsky aux essais de Simone Weil, de l'Alsacien Claude Vigée au russo-franco-argentin Joseph Kessel, leurs mots vibrent au corps. Entre exil et enracinement, tragédie et génie, ces auteurs ont façonné un siècle de littérature tourmentée, lumineux et fondateur. Pour les découvrir ou les redécouvrir, installez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Romancière, essayiste, dramaturge, née en 1916 à Palerme, morte en 1991 à Rome, Natalia Ginzburg a traversé tout le XXe siècle italien, du sud au nord. Née au milieu de la Première Guerre mondiale dans une famille juive intellectuelle et antifasciste, elle grandit à Turin, dans un milieu où l'on croise déjà les noms de Primo Levi, Cesare Pavese ou Giulio Ainaudi, le futur grand éditeur italien. Il faudra, bien sûr, me corriger sur l'accent. C'est même difficile de distinguer le nom de Natalia Levi, devenue Ginzburg par son mariage en 1938, dans l'effervescence de la gauche italienne et la naissance d'une nouvelle génération engagée, où littérature, cinéma, édition, engagement et lutte politique vont de pair. L'histoire, qui a fait mûrir cette génération, va aussi la disperser. Le fascisme monte, les lois raciales excluent les juifs de la vie publique, la guerre éclate. Le mari de Natalia, l'historien Léoné Ginzburg, grand résistant, sera arrêté, torturé et mourra en prison en 1944. Natalia reste seule, avec trois enfants, dans une Italie dévastée. Pour moi, c'est là qu'est la spécificité de Natalia Ginzburg. Elle décrit la tragédie qu'a été son existence avec un optimisme lucide qui est une forme de pudeur. Peut-être que tout est dans l'un de ses titres, Les Petites Vertus. Chez Ginzburg, très peu de dates ou de descriptions historiques, et pourtant, l'histoire affleure à chaque page. Son chef-d'œuvre, Les mots de la tribu, Lessico Familiare, publié en 1963, est à la fois un livre de souvenirs et une grande fresque générationnelle. On y croise les figures de son enfance, les voix des parents, des frères, des amis, ces phrases toutes faites, drôles ou cruelles, qui circulaient dans la maison et formaient une langue secrète, celle des siens. Mais derrière l'anecdote familiale, perce toujours l'ombre de l'histoire, l'antifascisme, la guerre, la mort de Léoné. Ce livre, qui lui vaut le prix Strega, la plus haute distinction littéraire italienne, touche des lecteurs bien au-delà de l'Italie, tant il dit l'universel de toute mémoire intime. Mais Ginzburg ne se limite pas à l'évocation du passé. Elle observe l'après-guerre, la reconstruction, les illusions et les renoncements. Dans Caro Michele, roman épistolaire publié en 1973, elle capte les incertitudes d'une nouvelle génération, celle des années 70, perdue entre idéalisme et désenchantement. Et toujours ce style dépouillé, presque sec, qui refuse les ornements. Une écriture qui semble dire « je vais droit à l'essentiel, je ne triche pas ». Car Natalia Ginzburg a aussi été une femme d'engagement, militante de gauche, proche du Parti communiste, élue députée dans les années 80, elle a défendu la liberté de penser, la dignité des faibles, et la mémoire des persécutés. Jusqu'à sa mort, à Rome, en 1991, elle n'a jamais cessé d'écrire, de réfléchir, de prendre la parole dans les journaux et les tribunes publiques, d'animer et de lier le monde de l'édition et la vie politique. Aujourd'hui encore, ses livres frappent par leur modernité tranquille. Ils parlent d'exil, de famille, de solitude, de transmission, de ce qui ne change pas. Pour entendre l'Italie populaire de l'après-guerre, celle des quartiers modestes, et des histoires simples et tristes, je vous propose d'écouter Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle premere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, è lui che non ti volle creder morta, bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
C'était la Canzone di Marinella par Fabrizio De André. Toute une époque qu'évoque aussi par la musique des mots Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg parle souvent de lecture et d'écriture. Dans Ne me demande jamais, par exemple, elle confesse: j'ai lu Cent ans de solitude par hasard et je l'ai commencé sans enthousiasme et avec méfiance. Nous sommes devenus tellement méfiants. Nous sommes devenus de mauvais lecteurs de romans. De nos jours, la société humaine est étrangement sujette aux contagions. Les idées vraies et les idées fausses se répandent et se confondent comme des nuages au-dessus de nos têtes. Elles se mêlent aux cauchemars et aux fantômes collectifs, si bien que nous ne savons plus distinguer le vrai du faux. Aujourd'hui, quand nous essayons d'écrire un roman, nous avons la sensation de faire une chose dont personne ne veut plus, qui n'est donc destinée à personne, et cela rend notre main molle, notre imagination froide et lasse. Et quand nous essayons de lire un roman, nous avons la sensation que s'abandonner à un monde imaginaire que d'autres ont créé pour nous est désormais interdit et nié. Aussi trouvons-nous mille prétextes pour ne pas lire ce roman et le laisser tomber. Notre vie trop anxieuse et trop remplie, les inquiétudes, les cauchemars, les fantômes intimes et collectifs qui partout nous assaillent et nous harcèlent. Mais tout ceci est pessimiste. Elle est plus optimiste lorsqu'elle parle de sa mère, dans Les mots de la tribu. Ma mère, elle, était optimiste de caractère et elle attendait quelques magnifiques coups de scène. Elle s'attendait à ce qu'on renversât un beau jour Mussolini. Ma mère sortait le matin en disant « Je vais voir si le fascisme tient toujours debout. Je vais voir si on a renversé Mussolini. » Elle recueillait des allusions et des racontars dans les magasins et elle en tirait de réconfortants auspices. À table, elle disait à mon père « Il y a du mécontentement dans l'air. Les gens n'en peuvent plus. »« Qui te l'a dit ?» hurlait mon père. « C'est mon marchand de légumes qui me l'a dit, » répondait ma mère. Et bien sûr, tout le sens de ce livre, Les mots de la tribu, se révèle lorsque Natalia Ginzburg parle de la mémoire qui sont attachées à ces mots. Nous sommes 5 frères et sœurs. Nous n'habitons pas la même ville, certains d'entre nous résident à l'étranger, et nous ne nous écrivons pas souvent. Il arrive que, quand nous nous rencontrons, que nous nous montrions les uns envers les autres indifférents ou distraits. Mais il suffit entre nous d'un mot. Il suffit d'un mot, d'une phrase. Une de ces phrases maintes fois entendues et répétées dans notre enfance. Il nous suffit de dire « Nous ne sommes pas venus à Bergame pour rigoler » ou « De quoi que ça pue l'acide sulfurique ?» pour retrouver tout à coup nos anciens rapports, notre enfance et notre jeunesse indissolublement liés à ces phrases, à ces paroles. L'une quelconque de ces phrases ou de ces paroles nous permettrait de nous reconnaître dans l'obscurité d'une grotte, au milieu de milliers de personnes. Ces phrases sont notre latin même, le vocabulaire de nos jours. Elles sont comme les hiéroglyphes des Égyptiens ou des Assyro-Babyloniens, le témoignage d'un noyau vital qui a cessé d'être, mais survit dans ces textes, sauvé de la fureur des eaux et de la corrosion du temps. Ces phrases constituent le fondement de notre unité, une unité qui subsistera jusqu'à notre mort, qui se recréera et ressuscitera dans les endroits les plus divers de la terre, quand l'un de nous dira « Illustre Monsieur Lippmann !» et que sur le champ résonnera à notre oreille la voix impatientée de mon père « Finissez-en avec cette histoire, je l'ai entendue des centaines de fois !» Puisque nous revoici dans l'Italie du XXe siècle, et puisqu'il s'agit quand même beaucoup d'histoires de famille chez Ginsburg, j'ai demandé à ma tante, Lucrezia Siboni, de venir échanger au micro du Peuple Lu. Lucrezia, tu es coach en développement personnel à Strasbourg, enseignante d'italien à l'INSP, anciennement l'ENA, et autrice d'une thèse en littérature italienne, intitulée « Image de l'autre, représentation du juif dans la littérature italienne du XIIIe au XVIe siècle ». Grande lectrice et excellent conseil littéraire surtout, puisque c'est toi qui m'as fait découvrir Natalia Ginsburg. Merci beaucoup. Et la première chose qui m'a frappée, parce que ça marque aussi mon écriture en tant qu'autrice, Natalia Ginsburg a écrit des formats courts, entre la nouvelle et le roman. Des récits plus que de véritables romans avec une intrigue suivie. Et c'est un format qu'on retrouve chez Moravia, chez Busati, qui a donné des chefs-d'œuvre en littérature italienne, russe, allemande, mais très peu en France. Pourquoi, à ton avis, pourquoi il y a tellement peu de récits courts à la manière de Ginsburg en France et pourquoi ça marque la littérature italienne ?
Alors, je pense en premier abord comme ça, que ça vient d'une éducation scolaire qu'on a eue. Et qu'il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas vu ici. On nous apprend à l'école, petit, à faire i pensierini. I pensierini, en tout cas, jusqu'à mon époque, peut-être maintenant.
C'est un très joli nom.
Peut-être maintenant, ça a changé. I pensierini, c'est justement écrire des petites pensées. C'est pas des haïkus, mais l'idée justement
c'est
un peu la même.
C'est quelle longueur à peu près?
Alors voilà, on doit écrire une phrase qui a déjà un sujet, un verbe et un complément. Donc une phrase qui se tient déjà avec ces trois parties grammaticales. Cela dit, après, l'exercice est d'ajouter des adjectifs, des attributs, une autre préposition, et d'élargir les pensierini jusqu'à quand on arrive à ce qu'on appelle un thème, une composition. Donc c'est presque comme un tableau. Voilà, on commence avec des petites touches, on commence par le noyau, et après, voilà, on met des petites touches de couleur et on continue, on agrandit. Et le but, c'est d'élargir la pensée, mais en l'écrivant en même temps.
Oui, je vois. Alors qu'en France, on a plutôt tendance à commencer par le plan.
Voilà, le plan. Voilà, justement, le plan, c'est ce que vous appelez le plan, c'est quelque chose que j'ai appris en France. En Italie, on ne fait pas de plan. Et d'ailleurs, je sais que mes élèves à l'ENA, à l'époque, déjà... Il y a longtemps, il disait, voilà, quand on parle avec les Italiens, on ne sait jamais où ils veulent arriver. On ne comprend pas leur plan dans le discours. On n'a pas nécessairement un plan. C'est-à-dire, on commence, on a, ça va, on a une introduction, un centre et une conclusion. Ça, c'est notre plan.
D'accord. Mais voilà. Entre les deux, plan thématique, chronologique,
rien
dialectique,
tout ça. Rien de tout ça. Tout ça, c'est, voilà, tout ça je l'ai appris en France. C'était la fameuse méthodologie à apprendre, mais que, voilà, qui n'est pas en italien. Donc, je pense que, pour revenir à ta question, je pense que ça vient de là.
Alors, opinion personnelle, mais moi, j'ai l'impression que ce format de partir des pensierini...
Pensierini.
Pensierini.
Il pensiero, c'est la pensée, c'est masculin. Il pensiero, et donc il pensierino, c'est une petite pensée.
D'accord, donc commencer par les petites pensées, commencer par des propos, ça permet de mieux appréhender des sujets qui ont plein de facettes, comme la famille dans les années 1940 en Italie. Ça convient mieux à des sujets qui sont très riches, qu'on peut voir de plein de points de vue différents, alors que le style très cartésien français qui va suivre un plan est mieux pour des sujets très déterminés, balisés, déjà bien identifiés.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça permet peut-être aussi un élan créateur, pas un esprit créateur, mais un élan créateur.
Et
d'ailleurs, dans les piccole virtù, donc dans les petites virtus, un des livres que tu as cité de Natalia Ginzburg, il y a une petite nouvelle sur l'Angleterre. Elogio e compianto dell'Inghilterra, c'est le titre. Et où elle dit, voilà, si je suis quand je suis en Angleterre, parce qu'elle a vécu un moment en Angleterre après son deuxième mariage, son mari travaillait en Angleterre et donc elle habitait un moment là-bas, voilà, parenthèse, parce que Natalia Ginzburg, elle a entre autres, voilà, elle a beaucoup voyagé, mais voilà, et elle dit voilà. Tout est gris et dans la grisaille du panorama anglais, ben voilà, il y a un petit arbre coloré.
J'aurais presque envie de dire un oranger sous le ciel irlandais.
Voilà. mais alors elle dit ça devrait me rendre joyeuse. Mais ce n'est pas le cas parce que cet arbre, il n'est pas là à hasard. On l'a mis pour donner de la couleur. Comme on mettra une porte rouge et au bout de deux autres bâtiments, une porte jaune. Donc, c'est des couleurs pensées. Les bus sont rouges. Voilà, on met des couleurs, mais pour rendre gai. Donc, ça a une finalité. Alors qu'elle dit, voilà, en Italie... si je trouverais le même petit arbre comme ça, je serais contente parce que je sais que c'est la nature, c'est la vie qui a planté cet arbre ici et il est là tout à fait à hasard. Par hasard, mais par contre, ça donne de la joie.
Je vais laisser les auditeurs imaginer toute la couleur que tu as apportée dans le studio. Alors là, ils ne voient pas la table couverte de livres colorés. Toi-même, tu respires la joie et l'optimisme. Et justement, une question plus personnelle. Dans les mots de la tribu, Natalia Ginzburg décrit l'histoire familiale à travers les expressions familières de chacun. Toi, quelles sont les expressions de ton enfance ou de ta tribu qui te viennent à l'esprit?
Alors là, j'en profiterai puisque on est dans une... la traduction du livre en français, c'est, en italien, il s'appelle « Lessico familiare ». Donc, plus que les mots de la tribu, tu vois, ça, c'est directement, on arrive au sujet. On parle des mots et on parle d'une tribu. Lessico familiare, c'est la famiglia. Et c'est les mots de la famiglia. C'est pas nécessairement une tribu. La famiglia, c'est aussi, bien sûr, anthropologiquement, on peut discuter, mais c'est... Si elle voulait dire le mot de la tribu, Natalia Ginzburg, elle aurait dit les paroles de la tribu. Alors, c'est le mot de la famille.
Oui, mais famille au sens italien.
Voilà, famille
amis,
au sens italien.
D'ailleurs, dans le livre, on voit beaucoup les amis. On a même parfois du mal à s'y retrouver dans tous ces personnages. Et des amis d'amis qui deviennent finalement, qu'elle finira par épouser pour l'un d'entre eux, et les amis de ses frères, les antifascistes qui vont être accueillis sous différents noms. Enfin, c'est très foisonnant. On voit que c'est une famille au sens italien.
Voilà, et justement, et c'est pour ça que je passe par là pour répondre à ta question. Ta question est, voilà, quels sont les mots de la famille ? Je prends cette famille-là. Là, on est, voilà, il y a... toi et moi, on a aussi un lien de parenté, puisque et donc on a une famille en commun, même, voilà. Et dans cette famille en commun, je prendrai alors une personne qu'on a en commun, par exemple Mamie Hilda, et voilà, qui pour moi est donc la, ma belle-mère, et pour toi, ta grand-mère paternelle, et ben voilà que... si moi, maintenant, je te dis « Quel amour ! Quel amour !» Et là, j'ai fait aussi un geste. Je sais que là, voilà.
Mais c'est exactement à ça que je pensais en lisant les mots de la tribu. Je dois t'avouer, ça m'a fait pleurer au début. Voilà. Dans les mots de la tribu, il y a plein d'expressions qui me sont revenues. Quand elle a porté les sablés aux amandes, qu'elle disait « Il faut du carburant pour travailler quand... ». Et de lire Natalia Ginzburg, ça a fait ressortir aussi par cette approche du lexico familiare et tout cet univers qui est attaché aux mots et aux expressions familières. Et c'est pour ça que même en parlant d'une famille que j'ai évidemment pas connue, de l'Italie antifasciste des années 40, mais elle évoque quelque chose qui nous parle, je pense, profondément à chacun de nous. Et on a donc parlé de Natalia Ginzburg, on a parlé d'Elsa Morante. Bon, ce qu'elles ont traversé, la Seconde Guerre mondiale a encouragé les femmes italiennes à plus s'écrire, à plus se faire connaître, en particulier les femmes juives qui se retrouvaient au croisement entre le drame intime de toutes les familles juives dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale et l'ampleur historique de leurs témoignages. Il y a une grande partie de ta thèse qui est dédiée à la figure de la femme juive en littérature italienne, alors plus au XIIIe et XVIe siècle. Mais est-ce que tu penses que la femme juive italienne a un rôle spécifique ? Que le fait que Natalia Ginzburg, qu'Elsa Morante soient des femmes leur donne aussi une position spécifique à cette époque et dans la littérature ?
Elles ont une position spécifique dans la littérature. Comme grande écrivaine de la grande histoire, de la petite histoire, avec leur propre regard déjà comme individu, comme personne. Comme femmes, elles y apportent leur spécificité, leur regard féminin particulier. Comme femmes engagées, leur engagement. Et le fait, en plus d'être des femmes, a peut-être ouvert aussi la porte à d'autres femmes. Une émulation, quelqu'un a ouvert la porte, et non seulement par émulation, mais en plus parce que justement ils ont ouvert une porte et d'autres femmes l'ont prise. Natalia Ginzburg, quand elle parle de son métier d'écrivaine, elle dit que... elle voulait écrire, elle écrivait comme, c'est une femme, elle écrit de femme, mais, et c'était plutôt les hommes qui étaient publiés, donc pour une femme c'était beaucoup plus difficile, la publication n'était pas encore totalement ouverte, il n'y avait même pas le droit au vote pour les femmes italiennes à l'époque, donc voilà. Mais elle dit que quand à un moment, elle préparait, et ça, j'ai, voilà, ça, elle préparait les petites bouillies pour ses enfants en bébé. Elle sait que voilà, pendant qu'elle préparait il semolino ou il sugo, comme elle l'écrit exactement, elle en parle dans une nouvelle.
Sugo, j'aurais du mal, semolino.
Alors, il semolino, c'est la petite semoule, et il sugo, c'est la sauce tomate. Ah. Voilà, elle pensait quand même à l'écriture, mais en même temps, donc voilà, c'est quelque chose qu'il l'a pas abandonné. C'était un fil conducteur dans son existence, mais à un moment donné, elle était encore plus fière d'être une femme écrivain parce que elle avait compris autant que maman. Qu'il y a des choses que les hommes pourront jamais comprendre de leurs enfants, avec toutes les bonnes intentions.
Et des autres hommes. On voit aussi ce qu'elle écrit sur son père dans les mots de la tribu et le jugement qu'elle porte sur lui, qui est le jugement d'une femme qui s'est sentie écrasée par une personnalité très dominante, mais qui s'en amuse aussi.
Elle s'est sentie écrasée, ben justement, voilà, elle dit comme une femme peut comprendre si bien ses enfants, et c'est que quelque chose à elle. Cela fait qu'elle a elle a quelque chose de plus, et donc ce de plus, je vais le mettre dans l'écriture aussi. L'image de son père était, oui, une image écrasante. Un père qui, presque ici même, il ferait... Voilà, on entend sa voix, une voix forte. C'est un homme fort. Mais elle en a quand même reçu de l'amour. Et ça change toute la donne. Tu as commencé en disant, voilà, quelqu'un d'optimiste malgré la guerre. Alors, si on prend Elsa Morante et Nathalie Ginzburg, qui d'ailleurs, elles étaient amies, et les deux sont les deux femmes qui ont gagné à l'époque les deux premiers prix Strega. Donc, elles
étaient l'équivalent du prix Goncourt pour l'Italie.
Voilà, elles étaient amies et Elsa Morante, elle disait à la Ginzburg que parfois elle était égoïste. Mais voilà, elles étaient des vraies amies parce qu'elles elles pouvaient aussi se dire ce qui n'allait pas. Et d'ailleurs, c'est Natalia Ginzburg à qui Elsa Morante, avant de mourir, elle a laissé ses chats. Que pour elle, c'était vraiment un signe, un legs. Voilà. Mais, donc j'ai perdu le...
Non, qu'il y avait des liens justement entre les femmes écrivains italiennes du XXe siècle.
Oui, elles étaient, donc je disais, elles étaient amies. Et je me suis perdue.
Il y a parfois
pensée.
Des avantages à avoir un plan à la française, même s'il a tendance à nous enfermer.
Tout à fait. Mais ta question.
Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce qu'il y a une succession? Elles ont ouvert une porte, mais qui s'y est engouffré? Quel est ton regard sur la littérature contemporaine italienne?
Ah, mais non, la porte est ouverte, bien évidemment. C'est une grande porte ouverte. Je dirais même qu'il n'y a plus de porte.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucrezia Siboni, pour ce témoignage sur Natalia Ginzburg. Merci beaucoup pour être intervenue et pour en avoir parlé aussi personnellement. Et au plaisir de pouvoir parler d'autres auteurs ou autrices du juif du XXe siècle.
Merci à vous. Merci aussi aux belles chansons que t'as choisies. La canzone di Marinella, c'est une poésie. Et on n'a pas le temps de la traduire, mais c'est une véritable poésie.
Ce serait un bon fond musical aussi pour les auditeurs, pour commencer la lecture de Natalia Ginzburg. Merci beaucoup.
Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.